campagne électorale prend fin ce vendredi 21 décembre à minuit, conformément au calendrier électoral, en dépit du report des élections au dimanche 30 décembre prochain. Le président de la CENI l'a confirmé hier jeudi devant la presse. Rappelons que plusieurs observateurs ont déploré des violences, des cas d'intolérance et des entraves aux libertés de certains candidats au cours de cette campagne. Quel bilan dressé du déroulement de la campagne électorale? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous avons dans cette émission Jean-Pierre Kambila, il est directeur de campagne adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Il est aussi cadre du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle. Bonsoir Monsieur Jean-Pierre Kambila.
Bonsoir.
Vidi Chimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle pour le compte du Cap vers les changements cash en sigle. Bonsoir Monsieur Vidi Chimanga.
Bonsoir.
Et Fidel Babala, député national de l'opposition et cadre du MLC, il est aussi coordonnateur à Kinshasa pour la campagne du candidat à la présidentielle de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou. Bonsoir, honorable Fidel Babala.
Bonsoir, joyeux Noël à tous et surtout un paisible Noël.
Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir, monsieur Jérôme Bonso.
Bonsoir cher ami Kimaké, bonsoir monsieur Jean-Pierre Kambila, bonsoir Edi Chimanga, bonsoir honorable Fidel Babala et bonsoir aux nombreux auditeurs de la radio de la paix.
Et bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Kambi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales ne se tiendront plus le 23 décembre comme initialement prévu. Elles ont été décalées d'une semaine, soit le 30 décembre 2018. L'annonce a été faite hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en sigle. Suivons cet extrait de la communication de Corneille Nanga.
Il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans les restes du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République, les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des partis prenants et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tiennent le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018.
À cette occasion, le président de la CENI a rappelé que conformément au calendrier électoral, la campagne qui a débuté le 22 novembre dernier s'est terminée ce vendredi 21 décembre. Human Rights Watch dénonce une campagne électorale violemment réprimée par les forces de l'ordre en RDC et exige une enquête. À cet effet, elle invite les casques bleus à aider à protéger les personnes avant les élections. Selon cette organisation internationale de défense des droits de l'homme, les forces de sécurité gouvernementales ont tué 7 partisans de l'opposition. Jeff Ngoy pour les détails.
50 personnes ont été blessées et d'autres encore ont été arbitrairement arrêtées du 9 au 13 décembre, dénonce Human Rights Watch. En revanche, la police nationale congolaise réplique qu'il s'agit là d'une analyse partisane sans attendre les enquêtes en cours. Son porte-parole, le colonel Piero Rombo Mwanamputu.
Vous n'allez pas nous empêcher de souligner qu'il s'agit là parfaitement d'une analyse un peu partisane et dépourvue, pourquoi pas, d'éléments de terrain. Les missions constitutionnelles de la police nationale ne nous édictent pas d'attenter à l'intégrité l'intégrité physique de nos concitoyens, mais plutôt de les sécuriser. La police nationale, lors des différentes campagnes électorales qui sont encore en cours, a rétabli l'ordre dans de nombreux cas lorsqu'il y avait des échauffourées entre partisans des camps adverses battant campagne pour les comptes de leurs candidats. Dès que les deux processions se croisent, sans attendre à assaisonner de la provocation, les projectiles ne tardent pas à fuser de partout.
La résolution 2409 du Conseil de sécurité confie à la MONUSCO le mandat de soutenir les parties prenantes au processus électoral par l'exercice des bons offices, une assistance technique et un soutien logistique. Au terme de cette résolution, le maintien de l'ordre demeure une fonction régalienne de l'État congolais.
Merci beaucoup à vous, Jeff Ngoï. De son côté, la porte-parole de la MONUSCO a rappelé la responsabilité des autorités congolaises pour la sécurisation du processus électoral. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies, mercredi 19 décembre à Kinshasa, Florence Marshall a déclaré que la sécurisation du processus électoral, la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris lorsque ces personnes exercent des libertés fondamentales ou leurs droits politiques, et la responsabilité du maintien de l'ordre sont des missions régaliennes de l'État congolais. Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Vous êtes aussi cadre du Front commun pour les Congo, les FCC. La campagne électorale se clôture ce soir à minuit sur fond du report, n'est-ce pas, des élections. Et d'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce par le président de la CENI du report des élections au 30 décembre prochain?
J'ai réagi en respectant les rôles que les institutions congolaises accordent à toutes les institutions. Dans notre pays, c'est la CENI qui organise les institutions. Si la CENI nous dit qu'elle n'est pas en possibilité d'organiser les élections ce dimanche et qu'il a besoin de 7 jours, je respecte et j'ai un souhait. Il faut que ça se réalise dans les 7 jours. On ne peut pas confier une responsabilité à une institution de la République, et puis contester si elle nous explique clairement et objectivement qu'elle est en l'impossibilité de le faire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que pour 7 jours, il faut mettre le pays à feu et à sang.
Oui, vous dites respecter la décision de la CENI, mais en écoutant le président Nanga, l'incendie de l'entrepôt de la CENI à Kinshasa le 13 décembre dernier a été un tournant, n'est-ce pas, par rapport à la tenue de ces élections, la date prévue initialement. Mais lorsqu'il faut analyser objectivement les faits, vous ne pensez pas que cet incendie n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, dans ce sens que, avant cela, plusieurs acteurs politiques et des forces vives, n'est-ce pas, de la nation, manifestaient la crainte de voir les élections être reportées, du fait notamment de la lenteur dans les déploiements des matériels électoraux sur les territoires nationaux, mais aussi de la faible sensibilisation sur l'utilisation de la fameuse machine à voter.
Face à la CENI, il y a eu deux sortes de critiques pendant le mois que nous venons de passer ici, même un peu avant. Il y a des gens qui n'ont pas critiqué la CENI, mais qui avaient et qui ont encore le souhait qu'il n'y ait pas des élections dans ce pays, parce que ça leur arrange. Donc il fallait être négatif, propager, soutenir l'hypothèse selon laquelle la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Ils ont mis seulement leur souhait en jeu.
Ça, c'est le
premier. Et on a vu, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse écrite, télévisuelle écrite, des gens qui ont souhaité même que ces élections n'aient pas lieu. Vous avez lu comme moi, là, toute la République a lu comme moi de menaces claires et nettes. Qu'on va saccager, on va brûler, on va... tout le monde a vu ça. Donc si ces gens-là...
Et comment vous expliquez cette attitude?
Si un accident vient aider ces gens-là, parce que je ne suis pas la police ni le juge, je ne sais pas qui a fait quoi, à quel moment. Mais même si un accident vient aider cette thèse-là, vous pensez que ces gens vont dire quoi? Que c'est bien, la CENI était en ordre, qu'il n'y avait pas de difficulté, non? C'est vrai que la CENI a rencontré quelques difficultés objectives. Nous sommes un pays continent, immense. C'est pas dans un pays comme le nôtre, on va pas amener tout ce matériel lourd facilement, un peu de temps. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. On ne les nie pas. Mais la CENI nous a toujours dit que c'était possible d'organiser les élections le 23 décembre. Et boum, il y a eu cet incendie qui a arrangé beaucoup de monde, notamment ceux qui ne souhaitaient pas qu'il y ait des élections.
Alors, vous semblez attribuer la faute à ceux qui semblaient ne pas souhaiter qu'il y ait élection le 23 décembre.
Mais est-ce que procès d'intention.
Vous pensez que la CENI a été attentive vis-à-vis des désidératants, n'est-ce pas, exprimés par ces groupes de gens?
Mais bien évidemment, puisque la CENI nous a toujours répondu qu'elle faisait tout pour que les élections aient lieu le 23 décembre. Nous le savons.
Des bonnes élections. Pas des élections contestées.
Mais le rôle que la République a donné à la CENI, c'est de nous donner des élections crédibles, transparentes, et dont le résultat sera accepté par tous. C'est ça le rôle. Et si la CENI vous dit, non, attendez, moi je ne suis pas capable aujourd'hui, à cause de tel incident, de vous donner ces élections-là, tout le monde devrait applaudir. Et surtout que le délai qui nous est demandé, c'est vraiment pas la fin du monde, 7 jours. Bon, on va dormir 7 fois.
Et les groupes que vous avez, n'est-ce pas, mentionnés, pensaient que pour que la CENI puisse organiser des élections crédibles, il fallait tenir compte de certains préalables, notamment retirer, n'est-ce pas, la machine à voter, et aussi élaguer des fichiers électoraux.
Non, la question...
C'est plus de 8 millions de Congolais
la question n'est fictifs. Pas là. Non, la question n'est pas là. Fictif, c'est faux d'ailleurs. Parce que ces gens-là, ils ont les empreintes, mais les empreintes sont illisibles. C'est pas la même chose. C'est comme, et puis, ces gens, le seul élément, les empreintes n'en sont pas les seuls éléments d'identification d'une personne. Les gens ont une tête. Ils existent. Ils ont un nom, une identité, une adresse. On connaît ces gens. Mais, il se fait que, lors de l'enregistrement, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, une négligence des agents. Bon, le fait est que nous avons un certain nombre de gens dont l'empreinte digitale n'est pas lisible. Mais c'est pas pour ça que ces gens ne sont pas des Congolais, c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Ils existent.
C'est un argument qui n'a pas convaincu une frange, n'est-ce pas, de l'opposition.
Mais c'est normal. L'opposition, elle est là pour s'opposer.
Monsieur Kabila, après cette annonce de la CENI portant report des élections, il y a eu de nombreuses réactions allant dans tous les sens. Il y a des personnes qui pensent que la décision de la CENI de reporter ces élections s'inscrit dans une logique, celle de permettre au régime actuel de pérenniser, n'est-ce pas, son influence, de pérenniser son pouvoir de façon subtile.
En faisant comment? En agissant comment? Le président de la République a dit clairement qu'il n'est pas candidat, le président actuel. Dans le groupe politique, où il a une grande influence, il a travaillé pour que ça soit Emmanuel Chadari. Maintenant, il va faire comment? Qu'est-ce qu'il va faire pour s'éterniser au pouvoir, pour rester comment?
Cette opinion, justement, pense que l'adhésion massive au discours des deux principaux candidats de l'opposition pendant cette campagne électorale, cette adhésion massive a inquiété les pouvoirs en place.
Et massive...
qui a estimé, monsieur Kabila, qui a estimé que pour, n'est-ce pas, casser cet élan, il fallait imposer une certaine pause de quelques jours avant la tenue des élections.
Massive, c'est vous qui le dites.
Les faits sont là.
Vous savez,
les
non,
images sont là.
Les images, déjà, j'ai vu beaucoup d'images truquées. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus truquer les images et penser que ça va passer comme ça. On a vu beaucoup d'images truquées. On a vu, et puis, vous faites pas d'illusions. Lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas arrive, il y a beaucoup de curieux qui veulent venir voir, écouter, pour enfin se retirer et prendre ses positions. La politique, c'est pas seulement les foules. Lorsque les gens seront dans l'urne, ils seront tout seuls devant leur conscience. C'est là qu'ils vont peser le pour et le contre. C'est pas dans les foules. Vous pensez que dans ces foules-là, il y a pas des gens de partis adverses à ceux qui viennent? Vous pensez vraiment que lorsque, même le président Kabila, quand le président Kabila traverse cette ville et qu'il y a plein de gens qui viennent, tous ces gens-là sont des kabilistes? Mais ne vous trompez pas.
Vous êtes sincère quand vous dites que ces images ne vous ont pas inquiété. Cette sorte d'adhésion, n'est-ce pas, massive.
C'est faux de parler d'adhésion massive. Quel discours? Déjà, où est le discours dans toute cette campagne électorale? Vous avez entendu un discours?
Le discours qui prônait les changements.
Hein? Le changement, c'est un discours? Il y a un contenu dans un changement? Lorsqu'on parle, déjà, dans cette campagne, je n'ai pas entendu beaucoup de contenu. Deuxièmement, lorsqu'on me parle d'adhésion, je me lève contre ça. Il n'y a eu aucune adhésion. L'adhésion, nous le saurons à la fin.
À travers les urnes.
À travers les urnes, merci. On saura qui l'a emporté.
Merci.
Avec tel pourcentage.
Merci, monsieur
Kambila. Des suffrages exprimés dans la République.
Merci, Vidier Tshimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle pour le compte du CAP vers le changement cash en sigle. La CENI reporte les élections au 30 décembre prochain. Comment cash a agi à cette annonce?
Mais écoutez, ce que je peux vous dire déjà, c'est que nous savions qu'il n'y allait pas avoir des élections le 23 décembre. Ce n'était pas une surprise, parce que d'ailleurs, dans la stratégie que nous avions adoptée d'accepter d'aller à ces élections avec ou sans la machine, comme on a coutume à le dire, c'était aussi une manière de mettre cette CENI et le gouvernement en place face à ses responsabilités. Parce que nous savions que techniquement, il était impossible pour cette CENI d'organiser les élections le 23 décembre, parce que la volonté déjà n'y était pas.
En dépit des assurances que la CENI donnait.
Toutes les assurances, en fait, toutes les assurances étaient, même pas, je vais même pas appeler ça des vœux pieux, c'était de la poudre qu'on l'on mettait sur le devant le visage des citoyens congolais. Il n'y a jamais eu de réelle volonté d'organiser des élections. Organiser les élections, finalement, ça a été contraint par une volonté du peuple congolais et ensuite aussi un appui, on va dire, d'une communauté internationale qui a mis les choses en place pour que les élections puissent avoir lieu en République démocratique du Congo. N'oublions pas que ces élections devaient avoir lieu en 2016. Nous sommes fin 2018, nous entrons en 2019 maintenant. Il n'y a jamais eu de vraie volonté et j'en veux pour preuve le fait que le pouvoir en place a mis en jeu tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir créer plutôt des affrontements avec l'opposition, créer des violences, créer des situations de crise qui pourraient entraîner soit un abandon des élections, une situation, d'extrême insécurité qui pourrait permettre à ce qu'il n'y ait pas des élections. Et on s'attend toujours à ce que l'opposition réagisse de manière épidermique.
Mais j'en veux pour dernier exemple. Monsieur Midi, apparemment vous êtes tombé dans ces pièges du pouvoir parce que on a entendu, n'est-ce pas, les opposants en train de s'attaquer mutuellement.
Et j'en veux pour dernier exemple. Je vais arriver à votre question là. J'en veux pour dernier exemple cette excusez-moi le terme, hein, mais je vais dire cette parodie ou cette comédie qui a été celle de l'incendie bien tombé, si je peux dire comme ça, de cet entrepôt de la CENI. Nous sommes aujourd'hui convaincus, parce que dès le premier jour, dès le petit matin, à 7h du matin de cet incendie, nous avons demandé est-ce qu'on puisse nous montrer ne fût-ce qu'une photo d'une seule machine encore en train de brûler. À la limite, si elles étaient en plastique comme certains l'ont prétendu et qu'elles avaient toutes été consumées, au moins au moment même de l'incendie, quelques photos pouvaient être prises à la sauvette, puisqu'on a vu des photos de véhicules en feu, de bâtiments en feu et tout ce que vous voulez. Mais une seule machine en feu, ça, personne n'est capable de vous le montrer. Ou ne fût-ce qu'un boulon.
On a vu aucune machine calcinée.
Vous n'allez pas me dire que les machines sont en plastique, même les boulons sont en plastique.
Vous voulez dire qu'on a vu aucune machine calcinée?
Aucune. En tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, nous en avons montré
aucune. Donc pour vous, les machines n'étaient pas dans cet
entrepôt-là. En tout cas, nous trouvons que c'est tombé bien à propos. À propos comment? À partir du moment où la majorité des opposants ont accepté d'aller aux élections et de battre campagne, il a été démontré, contrairement à ce que notre co-débatteur, M. Kambila, veut essayer de nous faire croire ici, il a été démontré que la population a donné son assentiment à une réelle volonté de changement, à une réelle volonté d'alternance, pas seulement une alternance de personnes, mais une alternance de système. Le système qui nous a mené depuis 17 ans dans la situation catastrophique qu'est le Congo à l'heure actuelle. Et partout où nous avons sillonné, là où personne ne pensait que nous irions, partout où nous avons sillonné, excusez-moi, mais nous avons entendu un peuple crier, nous avons entendu un peuple pleurer, nous avons entendu un peuple, et Monsieur Kabila peut-être ne s'est pas rendu dans tous ces endroits de la République, mais moi, je ne vais pas jeter des fleurs à mon co-débatteur, par contre, de la Mouka. Je vais juste dire une chose, c'est que là où Cash avançait, s'il y avait des réponses ou bien une certaine rivalité, bon enfant, parce que je peux l'appeler quelque part bon enfant dans certains cas, c'était souvent avec des partisans du camp Lamouka. Mais excusez-moi, je n'ai jamais entendu des partisans du camp FCC. Je n'ai jamais entendu sur notre chemin quelqu'un qui dise non Toboi Bino Tolingi je sais pas Shadari ou que sais-je. Jamais. Monsieur Kabila dit que quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive quelque part, ça suscite beaucoup de curieux. Mais très peu de personnes connaissent Shadari. D'après ce que j'ai vu sur le terrain, très peu de personnes le connaissent. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas entraîné autant d'engouement que le Cash lorsque nous étions en campagne dans toutes ces contrées? Pourquoi
Il n'a pas raison lorsqu'il dit que la vraie volonté se manifeste à travers les urnes?
Ah oui, la volonté se manifestera à travers les urnes. Et c'est pour ça que nous avons appelé notre population non seulement à appliquer leur devoir civique, celui d'aller au vote et de choisir leur candidat, mais au-delà de ça, nous appelons notre population, en sus de nos témoins, à pouvoir être eux-mêmes aussi les garants et les témoins de ce qui sera le résultat placardé sur nos bureaux de vote au soir même de l'élection. Ce qui va empêcher, ou ce qui va être en tout cas une grosse épine dans le pied de nos amis du FCC et aussi de la CENI pour pouvoir faire les manipulations dont nous les suspectons de vouloir profiter dans les bureaux de compilation et pas spécialement dans les bureaux de vote. Donc vraiment, nous sommes aujourd'hui dans une situation
c'est
où...
C'est pourquoi l'opposition doit renforcer la surveillance à travers
alors nous renforçons, nous sommes préparés à ça, là où le FCC pensait que nous ne serions pas prêts, au contraire, nous sommes bien prêts. Et encore une petite chose tout à fait particulière, nous sommes curieux. Aujourd'hui, le président de la CENI a reporté les élections. Et vous l'avez dit dans votre introduction, il a aussi interrompu la campagne électorale. Mais ça nous dérange complètement. Candidat. Parce que pour quelle raison est-ce que la loi électorale a dit dans son article 28 que cette campagne électorale s'arrête 24 heures avant la tenue du scrutin. Pour quelle raison? Ce n'est pas tout simplement pour faire plaisir aux uns et aux autres. C'est parce qu'il y a un message, il y a une tension qui est mise dans le chef des électeurs pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire le jour de l'élection. Et si vous laissez une semaine supplémentaire de silence, alors que vous laissez l'occasion à un gouvernement, à toute une stratégie qui est mise en place pour essayer d'endormir la population, vous vous rendez compte que vous risquez de tronquer le résultat et essayer de profiter de situations tout à fait particulières pour tromper le peuple congolais et la communauté internationale qui nous regarde en observateur.
Merci Fidel Babala, député national de l'opposition et cadre du MLC. Vous êtes coordonnateur à Kinshasa pour la campagne du candidat à la présidentielle de la coalition Lamouka Martin Fayulu. Lamouka a naturellement réagi négativement à cette décision de reporter les élections au 30 décembre prochain. Et quelle est la position de Lamouka actuellement? Est-ce que vous êtes obligé de vous conformer à cette décision de la CENI? Ou vous y résistez?
Merci pour la question. J'aimerais rebondir sur le dernier propos de mon débatteur Vidier Dimanga pour citer l'article 28 de la loi électorale en corrélation avec l'article 110 de la même loi électorale. On a à plusieurs reprises entendu M. Nanga dire qu'il est légaliste, qu'il respecte la loi. La loi dit quoi? Si vous permettez, je vais lire rapidement pour que cela ne prête pas à débat.
Je vous en prie.
Notre ami est juriste comme moi, donc on devrait débattre sur base de texte. L'article 28 dit ceci, la campagne électorale est ouverte 30 jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant cette date. L'article 28, c'est un principe général. L'article 110 est beaucoup plus explicite. Sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la présente loi, la campagne électorale est ouverte 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats. Ça aurait dû être le 21 septembre. Et prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Ça signifie quoi? Après une campagne, soit de 30 jours, selon l'article 28, soit à partir de la liste, de la publication des listes définitives, c'est-à-dire à partir du 21 septembre, jusqu'à la veille des élections, on doit pouvoir, 24 heures avant, interrompre la campagne pour laisser l'électeur seul devant sa conscience pour réfléchir pour qui il va voter demain. Ces communiqués de M. Nanga, malgré son arrogance affichée pendant de longues années, je crois qu'il a atteint son niveau de compétence. Ces communiqués ne peuvent pas être contraires à la loi. Et la campagne ne devrait pas se terminer comme il dit aujourd'hui. Ça devait se terminer 24 heures après, 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire le 28 décembre au moins.
Et donc on devrait,
est illégal.
Prolonger d'une semaine.
Ce communiqué est illégal. Ben, quand on dit qu'il faut écouter les autres, il faut un cadre de concertation, l'arrogance de M. Nanga a fait atteindre la CENI à un niveau d'incompétence jamais atteint. La logique, même la dignité liée à ce genre de fonction aurait voulu que M. Nanga démissionne. La main tendue par les partenaires intérieurs et extérieurs, multilatéraux ou bilatéraux, a été superbement ignoré par M. Nanga sous un prétexte fallacieux de la souveraineté de l'État, en lui rappelant que l'eau qu'il boit tous les jours est financée à 96% par la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça lui coûtait de pouvoir écouter les uns et les autres? On ne serait pas arrivé à cette situation. C'est un aveu d'incompétence, d'impréparation. Et je suis d'accord avec M. Vidiet Limanga que l'incendie, c'est un prétexte. On a refusé. En adhérant à ces propos, on a refusé même l'accès à des observateurs indépendants pour se rendre compte de la réalité. En réalité, la CENI n'a pas été capable d'organiser les élections.
Et donc, vous n'êtes pas convaincu des raisons évoquées par Nanga. Il a évoqué des problèmes logistiques.
Ce ne serait pas un premier mensonge. Monsieur Nanga est passé maître en l'art de pouvoir raconter sa vie. Or, il est délégué par la nation pour organiser par la loi. Pour organiser les élections, il doit avoir une attitude d'un technicien. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on parle des élections dans une semaine. Je vais vous citer quelques chiffres. À Bomongo, il n'y a pas de machine. Au Nord-Ubangi, sur les 565 machines, il y en a 105. Les 400 tonnes de procès-verbaux qui sont arrivés il y a 2 ou 3 jours, comment les distribuer, les répartir dans toute la République en moins de 7 jours? Un peu d'humilité aurait pu faire comprendre à notre frère que il aurait eu besoin de beaucoup plus de temps. J'ai entendu notre co-débatteur dire que le directeur adjoint du cabinet du président de la République, que notre pays est un pays continent. Mais il devrait être honteux, ces pays continents, en 17 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme infrastructure pour permettre un déploiement rapide des effets électoraux? On a un problème. L'avion qui est tombé hier, on n'a même pas des radars pour pouvoir localiser cet avion où est-ce qu'il est tombé.
Voilà, vous avez évoqué.
C'est extraordinaire.
Babala, Fidèle Babala, vous avez évoqué les cas des Bomongo, où il n'y a pas de machines à voter jusque-là. Alors, vous auriez souhaité que la CENI puisse vous organiser des élections le dimanche 23 décembre, des élections bâclées, ou alors lui permettre de pouvoir préparer de façon convenable ces élections pour vous donner des bonnes élections le 30 décembre prochain.
Monsieur Irung.
Guimaté,
excusez-moi. Personne n'a mis un pistolet sur la tempe de Monsieur Nanga pour écrire, nous proposer le calendrier qu'il a proposé. Personne ne lui a dit d'être aussi arrogant. Depuis 2015, l'annulation des élections provinciales, c'était d'une arrogance incroyable. Le chef de l'État, en 2015... La raison pour laquelle il avait demandé qu'il y ait des dialogues, c'était pour avoir des élections libres, transparentes et apaisées, en ajoutant inclusives. Ces élections n'ont jamais été, ne seront jamais transparentes, apaisées. Monsieur Kambila vient de le reconnaître. On a suivi même un élément où un responsable de la police donnait sa position en ce qui concerne les violences qui ont émaillé la campagne électorale. Et nous avons vécu Kindu pour le candidat de la Mouka, nous avons vécu à Lubumbashi, Kalemi. Et pour couronner le tout, nous avons eu le gouverneur de la ville qui, en contradiction avec l'article 81 de la loi électorale, interdit un meeting, alors que, par un communiqué. Donc je dirais aussi, comme tous les amis qui me suivent, que ces pays ressemblent de plus en plus à un asile de fous ouvert. Tout le monde peut prendre une liberté pour contredire la loi et regarder les gens droit dans les yeux. Le gouverneur de la ville n'a aucune compétence de pouvoir interrompre une campagne électorale, qui est réglée par ailleurs par la loi. Et la loi, l'article 81 de la loi électorale, prévoit des sanctions, notamment la radiation du gouverneur de la ville, puisqu'il est candidat. J'aimerais bien qu'on applique la loi.
Et comment vous expliquez l'acharnement à l'endroit de votre candidat, M. Fayoulou, pendant cette campagne électorale? On l'a même empêché, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer à Kinshasa pendant ce moment?
J'y étais, en tant que coordonnateur.
Comment vous expliquez cet acharnement?
Ce que j'explique, c'est tout simplement c'est la panique qui est en train de gagner les camps de notre frère Kabila qui est ici. Je crois qu'au départ, ils n'ont
les
pas...
Les camps du FCC.
FCC. Et du président de la République. Quand j'ai dit président de la République, c'est le président de la République, Chadari. Parce que j'ai lu les deux. 17 ans de pouvoir, le pays a rejeté la gouvernance Kabila. Où il n'y a pas de bilan palpable. Si ce n'est les antivaleurs. Et nous arrivons dans une situation où ils n'avaient pas vu venir la candidature de Martin Fayoulou, qui a bouleversé leur plan. C'est la vision d'un pays qui s'élève pour dire non partout où on est passé, soit nous-mêmes, soit nos amis de cash, où il y a eu un rejet total et légitime du pouvoir de la gouvernance Kabila, qui est représenté par M. Chadari.
Quand il parle... Il faut aussi reconnaître que les candidats du FCC, M. Chadari, a aussi drainé des foules, n'est-ce pas, derrière lui. Les images sont là.
Les images sont là aussi. Je vous cite ses propres propos. Moupata Séali, à Kinshasa, Amata dit, ça vient de se passer là maintenant, vous
c'est
vérifiez.
Lui qui l'a dit.
Comment?
C'est lui qui l'a dit.
Il a dit, à Kinshasa, c'est visible, vous avez vu le vidéo. Okay. J'aimerais que quelqu'un puisse me contredire.
Merci.
Quand on achète des consciences, ça c'est de la corruption. C'est de la corruption de conscience, c'est comme ça pendant les 17 ans du règne de Kabila.
Merci Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Dans quelques heures, la campagne électorale va se clôturer, mais les élections, elles, sont reportées par la CENI au 30 décembre prochain. Votre analyse?
Cher ami Kibate, on analyse l'aspect que nous devons voir le décor qui a été planté. Là, on a lancé la campagne électorale. La campagne électorale a été lancée dans un contexte agité. Parce qu'il s'est fait voir des clivages. Un clivage, c'est des candidats qui hésitaient d'aller aux élections, qui ne croyaient pas que les élections allaient se tenir, mais ils ont quand même pris le train électoral. Deuxième clivage, ce sont des candidats qui tenaient coûte que coûte d'aller aux élections. Mais ils tenaient sans conviction qu'ils devaient aller aux élections. D'où les deux camps ont perdu de vue de maîtriser ce qu'on appelle le sous-bassement de la campagne électorale. Qui dit campagne électorale, qui convainc pour la victoire électorale. Qui dit campagne électorale, c'est avoir l'air de communiquer, de bien communiquer. Et qui dit campagne électorale, c'est savoir se vendre à l'avance comme un produit consommable en allant avec offre politique. Moi, président de la République, candidat président, député national, voilà quel mon offre offre la population. Et la population, il y a aussi ce qu'on appelle demande politique. Et aussi, quand on arrive à ce niveau-là, il faudrait se munir des stratégies et des techniques pour la victoire électorale. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons devant une période légale prévue par l'article 28 de la loi électorale qui décrète ce que nous appelons dans le jargon électoral le silence électoral. C'est une période que le législateur a compris qu'après avoir fidélisé ses électeurs, c'est là que ce temps va permettre au lecteur de prendre une décision, de choisir son candidat de son choix, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, cette décision d'arrêter les élections silence électorales 24 heures, mais le 24 heures par rapport à quelle date? Par rapport à la date du 23 décembre 2018 ou bien par rapport à la date du 30 décembre 2018? Et c'est de là, nous nous trouvons dans un contexte de polémique. La polémique est issue du fait que il y avait ferme détermination suscitée par les acteurs de la commission électorale, les responsables de la CENI, qui ont créé l'espoir dans les chefs de la population. pour dire la CENI disait qu'il laisse qu'une preuve, le rendez-vous du 23 décembre où les trois scrutins seront respectés. Et aucune personne, même celle de la CENI, même l'opposition, la majorité, personne ne pouvait rêver qu'on connaîtrait le report des élections.
Monsieur Bonso.
Pourquoi? Parce que.
Monsieur Bonso.
Oui.
Et donc, la CENI a péché par, n'est-ce pas, une sorte d'idéalisme. Elle a été idéaliste au lieu d'être réaliste et n'a pas voulu voir les évidences.
Non, la CENI était devant un travail technique, pratique. Parce que la CENI était convaincue que selon sa planification électorale, selon sa budgétisation électorale, la date du 23 serait respectée. Mais la CENI n'étant pas prophète pour faire la planification des risques. Et c'est là où la CENI s'est trouvée devant un fait accompli, s'est trouvée devant ce cas de force majeure. Parce que la CENI avait présenté le cas de force majeure, c'est dû à quoi? Aux deux hypothèses. Soit on respecte la date du 23 décembre, ça, la ville de Kinshasa. Soit on respecte une autre date du 30 avec tout le monde. Et à ce moment-là, c'est là ça a créé dans le chef de la population, dans les chefs des uns et des autres, ce que nous appelons un séisme électoral. Un séisme électoral psychologique, économique, logistique, un séisme qui n'a même pas épargné aussi la CENI, qui doit faire un signe de dépenses qui n'était pas prévu. Là, nous prenons trois raisons avancées par la CENI pour le report du scrutin. Première raison, l'instruction des 10 000 machines à voter. On doit commander les 10 000 machines à voter. La commande de ces 10 000 machines à voter n'était pas dans la planification électorale. Ce n'était pas dans le budget de la CENI. Deuxième raison, impression et codification des bulletins de vote. Prévu dans la planification. Troisième raison, déploiement des imprimés de banners, procès-verbaux, des opérations électorales et des imprimants. Voilà autant de raisons qui nécessitent notre dépense et notre budget et ça, qui n'est pas dans la planification officielle. Et avec ces trois raisons, notre gouvernement sera-t-il en mesure de nous donner cet argent pour qui commande 10 000 machines à voter? Est-ce que nous tenir à un budget supplémentaire qui puisse lui permettre, dans un laps de temps, de commander le bulletin de vote et le déployer?
Monsieur Bonso?
Est-ce que la CENI maintenant doit avoir l'argent supplémentaire pour payer les agents électoraux pendant 7 jours qui n'étaient pas budgétisés?
Monsieur Bonso?
Donc, nous nous trouvons maintenant dans une situation d'une gouvernance électorale atypique.
Monsieur Bonso?
Atypique pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a ceux qui se réfèrent à une disposition légale, l'article 28, parce qu'on doit respecter pour qu'il n'y ait pas de dégâts entre les électeurs qui étaient déjà fidélisés. Si on met beaucoup de temps, c'est là où je suis content que la CENI a mis un temps quand même un peu raisonnable, 7 jours. Mais si ça allait revenir de 7 jours, ça allait être l'hécatombe électorale.
Monsieur Bonso.
Et c'est pourquoi nous disons à ce niveau. Parce que nous nous trouvons devant une situation électorale, une gouvernance électorale atypique. Le 24h, c'est par rapport au 23 décembre. Mais le 24h, par rapport au 30 décembre, c'est fait. Et c'est de là, nous interpellons les uns et les autres de regarder parce que nous trouvons tous devant des cas de force majeure.
Jean Bonso.
La CENI devant trois raisons de force majeure sur la date du 24. Il y a une disposition légale qu'on ne peut pas violer, qu'on doit respecter. Mais le cas de force majeure étant, est-ce que le 24, c'est pour le 23 ou bien c'est pour le 30? Si on met pour le 30, pour le 23, il y aura des intéressements totaux. Il y aura perte de moyens financiers, perte d'énergie, de part et d'autre. Même du côté de la CENI, même du côté des candidats, même du côté des agents électoraux, même du côté des électeurs, surtout des électeurs.
Merci, M. Jean Bosso. Merci, nous allons vous redonner la parole. M. Jean-Pierre Kambila, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Bonjour, l'homme de Bukavu, aussi de Kivu. À travers cette campagne électorale qui prend fin dans quelques heures, il y a lieu de noter qu'une véritable démocratie est loin de voir le jour en RDC et que les acteurs politiques congolais partie prenante à ce processus électoral sont encore politiquement immatures. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette campagne électorale finissante reflète bien l'image de ce que seront les élections si celles-ci vont réellement se tenir le dimanche 30 décembre courant, et aussi de ce que sera le processus politique en général. Pour tout dire, cette campagne électorale aura visiblement été largement en faveur du Front commun pour le Congo, FCC, mais seule la sanction objective du souverain primaire, le peuple congolais, pourrait renverser les choses et fixer à la majorité ou à l'opposition le sort que mérite chacune d'elles.
C'était plutôt une réflexion qui venait de Bukavu, Sud Kivu, monsieur Jean-Pierre Kambila.
Oui, je trouve que je ne suis pas loin de m'accorder avec la sentence que nous venons d'entendre. Cette campagne électorale n'a pas donné une bonne image de la démocratie congolaise. Ça, c'est clair. Elle a montré une certaine immaturité dans notre façon de Congolais de vivre la démocratie. On l'a vu. La démocratie, lorsqu'on réunit les foules, on les réunit dans la paix, pour passer un message. On ne les réunit pas pour les inciter à aller taper sur le policier, à aller brûler la maison de l'autre, etc. Et c'est ce que nous avons vu.
Il y avait ce genre de discours ?
Il y avait ce genre de discours, je suis prêt à vous les envoyer si c'est nécessaire. Voilà pourquoi je répondrai...
De la part de qui ? Des candidats de l'opposition ou du
RCP ? Essentiellement de la Mouka. Essentiellement de la Mouka. Mais aussi,
à ce qu'explique l'acharnement du pouvoir
du cash.
À l'endroit
de la Mouka. Ça n'explique rien. Laissez-moi, j'ai un temps de parole, j'aimerais le dire. J'aimerais dire à mon frère et ami Babala ici présent que ceux qui devraient avoir honte dans ce pays, c'est ceux qui se sont acharnés à briser l'élan du développement de ce pays à chaque fois que le gouvernement de Kabila a voulu travailler.
Vous faites allusion à qui ?
À ses amis. Ceux qui sont aujourd'hui à la Mouka, ils viennent d'où? Ils ont un passé. C'est les gens qui ont soutenu toutes les rébellions qui ont retardé ce pays. C'est des gens qui ont soutenu toutes les guerres qu'il y a eu dans ce pays depuis 17 ans.
C'est trop facile. Mais avec qui vous avez collaboré? C'est les gens avec qui vous avez collaboré?
Aussi, oui.
En dépit du fait qu'ils soutenaient les rébellions?
Non, pas en dépit du fait.
Parce que vous dites qu'ils soutenaient les différentes rébellions.
Parce qu'on l'ignorait. Regardez, comment voulez-vous donner confiance aux gens qui, ils étaient dans un camp politique, hein. On parle de 17 ans, pendant 15 ans, pour certains d'entre eux, 13 ou 14 pour certains autres, à 2 mois, sachant que Kabila ne sera plus candidat. Ils le savaient. Et c'est à ce moment-là qui se retire du camp pour aller essayer de manipuler le camp des autres et avoir des voix là-bas. C'est ce qui s'est passé.
Alors comment vous répondez à monsieur pour ces gens-là qui pense que la décision de la CENI reflète un manque de volonté, n'est-ce pas, de la part du pouvoir?
Non, écoutez,
organiser les élections.
La CENI, je vous le rappelle, cher monsieur,
il avoue que même la comédie par rapport à l'étendue de la CENI.
C'est une institution indépendante. Je défends ici les thèses du gouvernement, si vous voulez, les thèses de FCC, si vous voulez, je défendrai. Mais je ne suis pas là pour défendre la CENI. La CENI, c'est une institution indépendante. Et là, des spécialistes, vous les invitez, ils vont s'exprimer.
Et par rapport à l'analyse qu'il fait au sujet de l'incendie, n'est-ce pas, de l'entrepôt.
Mais j'arrive. Cet incendie. Mais c'est un crime revendiqué par avance. Regardez les réseaux sociaux. Si vous continuez comme ça, nous allons faire ça. Et cette chose-là se réalise.
Et de l'opposition n'ont pas vu les machines calcinées. Est-ce que vous avez vu les machines calcinées?
Oui, moi je les ai vues.
Les photos existent.
Les photos existent. Et en sortant d'ici, je veux prendre le numéro de téléphone de mon frère et compatriote ici présent. Je vais le lui envoyer. Je suis d'accord avec lui qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Lorsqu'une maison brûle, les photographes, ils vont rentrer dans cette maison-là pour aller regarder ce qui est à l'intérieur de la maison et prendre des photos, ou bien ils vont prendre les photos depuis l'extérieur. C'est normal qu'on voit les véhicules qui étaient depuis l'extérieur, qu'on voit des échelles, des choses comme ça, ce qu'il y a depuis l'extérieur. Comment voulez-vous qu'on montre les photos précises des papiers qui étaient dans les bâtiments et des appareils qui sont des appareils en plastique? Donc, il y a peu de photos où vous voyez ces appareils-là. Mais j'aimerais quand même répondre à des choses importantes. Donc, je précise que ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux-là. C'est ce groupe où vous trouvez des gens qui, pendant 15 ans, 17 ans, ont soit appuyé, soit participé directement à des rébellions pour affaiblir le gouvernement.
Vous l'avez déjà dit.
Ensuite, pour dire que, voilà, vous ne faites rien.
Est-ce qu'on peut évoluer?
Ça, c'est rien. On évolue.
On va vous redonner la parole. Monsieur Kamila, on n'a pas tout le temps. On va vous redonner la parole. Monsieur Vidia, vous allez réagir.
Vous l'avez déjà reprise.
Vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Maniema.
Oui.
Il y a une réflexion là qu'on va écouter.
Je suis Joseph, membre du collectif avant les amendements. Comment voulez-vous que la campagne prenne plus d'une semaine avant les élections? Ne pensez-vous pas que les électeurs vont oublier les numéros de leurs candidats? C'est parce qu'ils n'ont pas pu respecter la date des élections et ne va pas être rigoureux quant à la durée de la campagne électorale non plus. Mais je pense qu'il y en a toujours eu dans le pays. Je pense que comme il y a un temps des élections, il y a prolongation de toutes les dernières activités du processus.
Est-ce que vous avez compris?
Je pense que ça rejoint exactement la position du CASH. D'ailleurs, elle a été annoncée dans le communiqué de presse que nous avons et la conférence de presse que nous avons tenue cet après-midi, où le président Félix Tshisekedi, au nom du CASH, a déclaré que nous, la campagne, elle continue conformément au respect des textes, les textes qui régissent d'ailleurs aussi cette CENI, notre constitution et tout ce qui s'ensuit. Donc, sur base de ces textes, entre autres, cet article 28 que M. Fidel Babala a très justement cité, eh bien, nous continuons la campagne jusqu'à 24 heures.
Où
nous allons la faire, nous allons vous donner le programme, parce que pour nous, le programme, il se terminait le 21. Et je soulève encore une fois ici quelque chose, un point extrêmement important. De manière unilatérale, certains représentants responsables de province se sont permis d'interrompre la campagne électorale pour tel ou tel candidat. Je vais lire l'article 81 que M. Babala a cité tout à l'heure. Quiconque entrave ou tente d'interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d'opinion pendant la campagne électorale est puni d'une servitude pénale principale de 12 mois au maximum et d'une amende de 50 à 100 000 francs. Je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Le devoir de nos représentants. Parce que dans le cas précis aujourd'hui, celui de la ville de Kinshasa, où le gouverneur, la première personnalité de la ville-province, se permet d'interdire et d'interrompre la campagne électorale par de multiples façons. D'abord, un, c'est un aveu d'échec de capacité de maintien de la paix, de capacité de protection des citoyens, non seulement les citoyens, les simples citoyens, mais aussi les candidats qui sont en campagne. Au-delà des candidats présidents de la République, il y a une multitude de candidats, députés, provinciaux, nationaux. Je veux dire, c'est carrément ôter à chaque citoyen congolais son droit d'avoir accès à une information. Dites-vous bien.
Monsieur Vidier, oui. Mettez-vous à la place du gouverneur de la ville de Kinshasa.
Oui.
Lorsque vous voyez ce qui s'est passé en province avec ces différents candidats, et que ces candidats reviennent au même moment dans la ville de Kinshasa pour battre campagne...
Oui. Mais il ne faut
est-ce que ça ne va pas vous inquiéter, vous, en tant qu'autorité numéro 1 de la ville?
Excusez-moi, mais il ne faut pas inverser les rôles. Les personnes qui sont mortes dans à Lumumbashi, à Mbujimayi, est-ce que ces personnes ont été tuées par des citoyens congolais, de camps adverses, de camps politiques adverses, ou bien n'ont-ils pas été tués par balles? Les balles venaient de qui? Mais excusez-moi, il ne faut pas inverser les rôles. Si les citoyens congolais sont tués par balles, sont tués par des débordements, et peut-être que l'État et les autorités compétentes feront la justice par rapport à ces personnes. Peut-être qu'il y a des policiers qui ont commis des bavures. Peu importe. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les différentes escarmouches que nous avons subies sur le terrain pendant la campagne ne venaient pas de nos adversaires du camp politique d'opposition, ou même du camp du FCC, parce que eux, on ne les voyait même pas. On se demandait même s'ils étaient en campagne, parce qu'on ne voyait même pas leurs militants. Mais par contre, nous avons subi des répressions, une répression, soit policière, soit militaire, et c'est là où nous tirons la sonnette d'alarme. Nous avons vu tout le monde, je pense, a été témoin ces derniers jours d'une extra-militarisation du territoire congolais.
Merci.
Nous tirons la sonnette d'alarme.
Monsieur Fidel Babala, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Olomami.
C'est Mwamba Ariok Mandandé depuis Fungurume. Le bilan de la CENI est nul, car sauf que c'est le président Inanga, fait au profit de la majorité au pouvoir en violant cette fois les lois électorales. Une campagne qui n'est pas crédible, même pas démocratique. Par exemple, l'incendie de l'entrepôt qui était préparé pour échapper aux élections, car ils se sont retrouvés devant un fort leader aimé par le peuple congolais, Martin Fayoulou. La CENI n'a pas eu une seule image de la machine brûlée, mais M. Inanga a donné le chiffre exact des machines endommagées après quelques heures de l'incendie.
Oui, honorable Fidèle Babala.
J'aimerais remercier la clairvoyance de notre compatriote qui est à Olomami. Mais avant toute chose, avant de continuer, j'aimerais préciser ce que notre collègue Vidier venait de dire tout à l'heure à propos de l'article 81 de la loi. Je lis l'article, le paragraphe 2 de cet article, ce même article, tout en adhérant à ce qu'il a dit. La personne qui interrompt, il est en outre privé de ses droits de vote et d'éligibilité pour une durée de 6 ans. Je demande à la CENI d'appliquer cet article, puisqu'elle est prompte à agir contre les opposants. Le gouverneur de la ville a interrompu la campagne contre les prescrits de la loi, et lui-même, le président de la CENI, les jours même de l'incendie, on a suivi le vice-premier ministre Mova, en lieu et place de la CENI, dire que ça ne changera rien, on tiendra les élections le 23. On a suivi M. Nanga dire que ça ne change rien. Comme il s'est dégonflé comme une baudruche, il est arrivé à la réalité de fait. Aujourd'hui, il est obligé de reconnaître qu'il n'a pas été et qu'il n'a jamais été prêt pour le faire. J'aimerais aussi répondre à notre ami qui vient de faire un aveu assez important pour dire que pendant 17 ans...
M. Jean-Pierre Kambila,
qui pendant 17 ans, le gouvernement... Kabila, les différents gouvernements Kabila ont été empêchés de travailler. La réalité est qu'ils n'ont pas travaillé, on ne voit pas des traces. Qui dans ces pays, au lieu de parler des rébellions, qui dans ces pays a soutenu le M23? Où se trouve le M23 aujourd'hui? Qui a soutenu le CNDP? Où se trouvent ses membres? Qui a interdit qu'on puisse extrader Bosco Ntaganda si c'est pas le chef de l'État? On se moque des Congolais de cette façon. Et vous trouvez une excuse, je m'excuse, je termine rapidement. Vous trouvez une excuse pour avoir poireauté dans le bureau et de ne pas avoir travaillé pendant 17 ans, que ce sont les autres qui vous ont empêché. Un pouvoir ne se plaint pas du tout, il agit. Vous avez été incapable de travailler. Bye bye, les Congolais vous diront, le jour où vous déciderez de pouvoir organiser les élections, les Congolais vous diront avec plaisir, bye bye, au revoir.
Monsieur Babala, un fait important, n'est-ce pas, pendant cette campagne, c'est ce que certains ont qualifié de revirement de votre face, de la Mouka face à la machine à voter.
Non, là, ce n'est pas un revirement, c'est une précision. La machine à voter, quand vous voyez la définition de la machine à voter, même Nanga, dans tous ses débuts, avait du mal à avoir un concept clair en ce qui concerne la machine à voter. Tantôt c'était une imprimante, tantôt c'est un ordinateur, mais la machine à voter, outre le fait qu'elle imprime des bulletins, elle doit transmettre, dans la conception d'aujourd'hui, transmettre des résultats à distance par Wi-Fi et par clé USB. Ce que nous refusons, c'est la transmission des résultats par Wi-Fi. Nous privilégions le comptage manuel. Seul le comptage manuel, puisque la loi interdit l'utilisation de vote, de moyens de vote électronique, 237R.
Merci.
Il n'y a pas contradiction.
Merci, Monsieur Jérôme Bonceau. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Bukavu, Sud Kivu.
La CENI n'est pas la seule à avoir commis le retard. Elle devrait faire bénéficier aux candidats à la présidentielle de cette opportunité de continuer leur campagne jusqu'à vendredi, depuis décembre jusqu'à là.
Oui, M. Jérôme Bonceau.
Oui, nous pensons que la CENI a tout intérêt à ajuster, à faire le réglage des opérations du poste électoral de scrutin au regard de cette nouvelle donne du report des élections. C'est la capacité managériale du pouvoir organisateur des élections et la CENI pour voir comment introduire le facteur correctif afin d'arriver à cet report que nous jugeons soit le dernier report et le tout dernier, pour que les électeurs puissent exprimer leur devoir civique. Mais j'ai dit au départ du matin qu'il y a, nous nous trouvons dans un environnement agité.
Une des vertus des élections démocratiques, c'est la résolution pacifique des conflits. Quand bien même les élections renferment des conflits latents. Mais nous nous trouvons devant plus de 15 000 candidats députés pour 50 sièges. Mais tous les 15 000 ne vont pas gagner les élections. Il n'y aura que 14 500 qui vont gagner.
Jean Bosso.
Qui vont perdre.
Jean Bosso.
Vont s'ajouter.
Jean Bosso. Oui. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Et vous avez évoqué ici les difficultés qu'avait la CENI, n'est-ce pas, à pouvoir planifier certains faits, notamment cet incendie. Voilà, cet incendie de l'entrepôt. Et vous dites que cela, n'est-ce pas, entraîne de nouvelles dépenses. Et vous pensez que la CENI n'a pas un budget supplémentaire. Et donc, vous pensez que même la date du 30 décembre ne sera pas tenue. Ça sera votre conclusion.
Je ne veux pas dire que ça ne sera pas tenu parce que la CENI, en donnant cette date, il a rencontré les parties prenantes au poste électoral. Par partie prenante, la CENI a rencontré le gouvernement. En lui donnant cette date, la CENI aurait donné maintenant un budget additionnel pour la commande de 10 000 machines. La CENI aurait donné un budget additionnel pour les bulletins, impression de bulletins de vote.
Merci, Monsieur Jean-Pierre Kambila. Votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite? En deux mots, parce qu'on est à la fin de l'émission.
Oui, bien évidemment, je fais confiance à la CENI. Tant que la CENI sera la CENI, c'est-à-dire l'institution qui est en charge d'organiser les élections, je fais confiance à la CENI. Mais j'aimerais quand même répondre sur deux choses. La première, c'est que ce soit le M23, le CNDP, toutes ces rébellions ont été encouragées depuis Kinshasa par ceux qui aujourd'hui se prétendent notre anniversaire et veulent nous mettre ça.
Avec qui vous collaboriez à l'époque.
Deuxièmement, ce pays, il n'existait plus.
Merci.
C'est Kabila qui a reconstruit l'unité de ce pays.
Merci.
Dans ce pays, Vidier, il n'y avait plus aucune route.
Vidier Chimanga, votre
aujourd'hui,
conclusion,
vous en avez.
Comment vous voyez la suite?
Écoutez, moi, en tout cas, je conclurai par dire que j'ai été très heureux de voir tout le long de cette campagne qui n'est pas terminée, qui se terminera le 28 décembre, sur toute l'étendue du territoire national, j'ai pu me rendre compte que de l'adhésion massive de la population pour l'opposition. Et je sais que le candidat qui gagnera les élections le 30 décembre, si elles ont lieu, ce dont nous doutons encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce sera le candidat Félix Tshisekedi, ou en tout cas un candidat de l'opposition.
Mais comment vous entrevoyez la suite,
Fidèle Babala? Je ne sais pas où est-ce
Fidèle Babala, votre conclusion. Fidèle Babala, votre conclusion.
Merci. J'aimerais rapidement dire que, au-delà de tous les cafouillages qu'on a vus, tout en demandant la démission de M. Nanga, nous ne croyons absolument pas qu'en une semaine, il pourra résoudre. Mais en tout état de cause, nous faisons en sorte que nos populations puissent massivement aller voter le jour du vote, le candidat Lamouka. Et en ce qui concerne le budget supplémentaire dont a parlé Bonso, il n'en est pas question. Déjà, la procédure d'achat de la machine à voter est opaque. Ça ne bénéficie qu'à Nanga et à ses membres des familles.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était la technique. Merci à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci à la semaine prochaine pour un autre débat. Bon week-end sur Radio Capi.